est parti. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être là si nombreux. Comme vous le voyez, on est un peu victime de notre succès. Voilà, donc buzz, ça c'est sûr, puisque on voit le monde qu'il y a là. La question d'aujourd'hui, bah, vous l'avez vu, est-ce que ChatGPT, dont tout le monde parle, c'est quelque chose qui va durer quelques mois, ou est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? On va essayer d'y répondre un petit peu, mais enfin l'idée c'est surtout d'échanger avec vous ce soir. Voilà. Alors le sujet de l'IA. Donc moi en fait je suis Anthony Fradera, cofondateur d'Askills. On est un cabinet de conseil spécialisé dans la data. Et initialement, on a toujours associé la data et l'intelligence artificielle à notre histoire. Et c'est pour ça qu'on est assez heureux de pouvoir co-organiser aujourd'hui l'événement avec la DIRA. Voilà. Ouais, tu peux appuyer. Donc on intervient en fait sur toute la chaîne de la donnée. L'architecture, l'ingénierie, la visualisation, etc., etc., jusqu'au développement web. Voilà. Notre premier expert, donc on va avoir de l'animation et puis de l'expertise sur les questions. Mathieu Guillermin, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, donc docteur en physique et en philosophie. L'un de ses thèmes de recherche principaux, il porte sur la question de l'articulation de l'éthique, la recherche scientifique et le développement technologique. Et il va s'intéresser principalement et particulièrement aux enjeux philosophiques et éthiques soulevés par les nouvelles technologies numériques, donc ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue Mathieu, donc tu peux aller t'asseoir. Et notre seconde experte, bon alors la moitié de la salle la connaît, peut-être l'autre moitié aussi, Virginie Mativet, qui est à la DIRA depuis plusieurs années, qui co-anime le groupe IA avec moi-même. Donc Virginie, elle fait de l'IA depuis 20 ans. Elle a été nommée par Women in Tech Expert IA de l'année en 2022, AWS Machine Learning Hero par AWS en 2021. Elle est conférencière, auteure, elle délivre des formations aussi autour du sujet. Et chez Teamwork, elle dirige les équipes Data Science et Engineering. Et voilà. Welcome,
Merci.
welcome, welcome Virginie. Je ne suis pas tout seul pour animer. Aujourd'hui, j'ai Marie-Laure et Raphaël avec moi, qui co-animent le groupe Capital Humain à la DIRA. Groupe Capital Humain qui, entre autres, va discuter des sujets liés à l'humain et dans les technologies. Et voilà. Bienvenue à vous. Il me reste à inviter le dernier expert. Le troisième. On l'a invité aussi puisque l'idée c'est de se dire par rapport aux questions que vous poserez à Mathieu et Virginie, on va faire la même chose avec ChatGPT, voir s'il est aussi intelligent qu'on le dit et voir si tout ça a vraiment de la valeur ou pas. On déterminera ça plus tard. Marie-Laure, je te passe la parole. Comment ça va?
Ça va bien, merci. Je suis super enthousiaste d'être là ce soir. J'en ai déjà lu pas mal de choses sur ChatGPT. C'est un sujet, on est au cœur de l'actualité. C'est le sujet du moment, c'est le sujet à ne pas manquer. On dit beaucoup de choses sur ChatGPT. On dit que c'est super innovant. Pour d'autres, il n'y a pas grand-chose à attendre de ChatGPT. Et j'attends beaucoup de cette soirée pour en apprendre plus et pour découvrir comment ChatGPT fonctionne et ce qu'on peut en attendre.
Eh bien, mon ressenti sur ChatGPT, c'est que j'ai lu beaucoup de choses dans différents articles, sur différents formats, et donc on voit beaucoup de choses, on se demande ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir avoir cette conférence aujourd'hui pour un petit peu remettre l'église au milieu du village et voir un petit peu ce que c'est vraiment ChatGPT. Mais on va pas être les seuls avec Marie-Laure à nous donner notre point de vue sur ChatGPT. Vous aussi, vous allez être acteur de cela. Et donc, vous avez une pancarte, une belle pancarte, avec un pouce vert et un pouce rouge. Pouce haut vers le haut, vert, pouce vers le bas. Rouge. Et donc, on va commencer un petit peu à s'échauffer et à vous poser la bonne question. Et la première question, c'est surtout, est-ce que c'est une bonne situation, ça, ChatGPT? Vous allez me dire, je ne crois pas qu'il ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et donc là, aujourd'hui, c'est pareil, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Première question, sérieusement, que pensez-vous de ChatGPT? A priori, c'est positif, pouce vers le haut, ou alors c'est bof, voire pas bien, pouce vers le bas. Belle tendance verte. positive.
C'est très vert dans la salle.
Tendance plutôt positive.
Deuxième question. C'est un changement de société, ChatGPT? Oui, pouce vers le haut. Ou non, ce n'est que du buzz. Et donc, rouge, pouce vers le bas.
C'est plus partagé, là.
Il y a des personnes qui veulent jouer à ne se prononce pas en mettant le pouce vers la gauche ou vers la droite. C'est pas très club, quoi. Alors, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que c'est quelque chose que... Ah oui, quand même. D'accord. Ok, d'accord. On a des experts aussi dans la salle. Très bien. Allez, dernière interaction, et puis ensuite, on va passer la parole à Virginie. Vas-y. Vous avez reçu un autre petit papier sur lequel on va vous demander d'inscrire le mot qui vous vient à l'esprit quand on vous dit ChatGPT. Essayez de le faire en un seul mot, voire vraiment deux au grand maximum, puisque le but, c'est de faire un nuage. Virginie,
c'est à toi. Alors bonsoir à tous, je suis désolée, je suis enrhumée et en fait je suis à fond depuis ce matin. Donc on va parler de ce qui est derrière ChatGPT. Et pour ça, on va commencer par faire un petit jeu. Alors, on vous a fait participer à l'écrit, là je vais vous faire participer à l'oral ce coup-ci. Il va falloir que vous m'aidiez. Alors vas-y. Donc voici un texte qui vient de Wikipédia. Ce que je vais vous demander, c'est de trouver les mots manquants. Et on va les faire un par un. La Terre est la troisième planète. Ouh là là, il y en a qui sont forts. Hein. Par ordre d'éloignement au Soleil est la cinquième plus grande du... Voilà. Aussi bien par la masse que par la taille. Non, le diamètre. Vous n'y étiez pas loin. C'est pareil, taille, diamètre, on est d'accord, ça se ressemble et tout, et pas de problème. Par ailleurs, elle est le seul objet céleste connu pour abriter la... Bien. Elle orbite autour du... En... Ah, il y en a qui mettent des virgules, il n'y en a pas. Il y en a qui ne savent pas trop. 365 à vue de nez à peu près. 365,25. Et en réalité, c'est pas tout à fait 25, mais j'ai arrondi. Pour que ça rentre à l'écran. Voilà. Donc, bravo. Donc, ce que vous venez de faire, en fait, c'est exactement ce que faisait l'ancêtre de ChatGPT qui s'appelle GPT-3. Donc vas-y, je te laisse aller sur la suivante. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis une énorme quantité de texte. Alors quand je dis une énorme quantité de texte, il faut compter que c'est 500 milliards de mots et que tout Wikipédia de toutes les langues représente 3% de toutes ces données. Donc ça fait vraiment très peu par rapport au reste. Tout le reste, c'est des livres et des textes qui ont été trouvés sur Internet, qui ont été scrappés, comme on dit, c'est-à-dire récupérés sur des sites, des forums et ainsi de suite sur Internet. Et en fait, le principe de l'algo, c'était d'entraîner un algo qui devinait le prochain mot. On lui donnait un contexte, donc on vous a donné le début de la phrase comme vous, et il devait trouver le mot suivant. Vous êtes très doué à ça. Vous comprenez ce que ça veut dire, mais malheureusement, GPT-3, lui non, ce n'est qu'un perroquet. Il a appris à répéter ce qu'il a vu statistiquement. Je vais y arriver dans les textes. Tu peux mettre... voilà, c'est bien, t'as compris. Pierre-Antoine, il est au taquet et tout, on l'a pas briefé, mais tout de suite, il... Voilà. Donc ça, c'est la version initiale GPT-3. GPT-3, il est sorti il y a quand même déjà maintenant un petit moment, puisque c'était fin 2020, début 2021 de mémoire de ces eaux-là. Donc ça date un petit peu quand même. Et GPT-3, c'était déjà la suite de GPT-2, qui était la suite d'un sûrement GPT-1 qu'on n'a jamais vu au niveau du public. GPT-3 était réservé à des membres triés sur le volet pour le tester. Tout le monde ne pouvait pas avoir accès à GPT-3. Alors GPT-3 a un gros défaut, c'est qu'il parle tout seul. En fait, vous lui donnez un mot, et à partir de ce mot, il trouve le suivant. Et à partir des deux mots, il trouve le troisième. Et puis à partir des trois, il trouve le quatrième, et ainsi de suite. Et puis il part dans un monologue, voilà. Donc en fait, c'est le gars chiant qui parle tout seul pendant des heures. Donc c'était pas très fun. Ils se sont dit, c'est pas cool pour le grand public, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. À la rigueur, il peut vous écrire des bouquins. Hein. Vous lui dites le début et puis vous lui dites le premier paragraphe. Et puis après, il est parti. Hein. Il va vous raconter tout le reste. Mais ce n'est pas top et ce n'est pas super utile. Donc, ils l'ont entraîné, non pas à faire des monologues, mais à discuter et à être dans un mode de questions-réponses. Donc, du coup, on lui a appris. On pose une question, tu donnes la réponse et tu te tais. Et on pose une autre question et tu donnes la réponse et tu te tais. Et donc ça, cette version-là de GPT-3 qui sait... répondre à des questions, c'est une version qu'on appelle GPT 3.5, alors qu'il y a un autre petit nom, c'est GPT 3 Instruct. Il y a d'autres versions de GPT 3 qui existent, dont une qui s'appelle Codex et qui permet de faire du code, qui a été spécifiquement entraîné pour faire du code. Donc ça, c'est GPT 3.5 ou GPT 3 Instruct, donc c'est l'ancêtre derrière. Et celui-là, il a été sorti fin 2021, début 2022. Donc voilà à peu près de quand ça date ça. Mais ce petit GPT 3.5, il a un souci. Alors, quand tout va bien, vous êtes un humain gentil, vous discutez avec GPT 3.5 dans sa version sympa, vous lui posez une question, qui est la recette de la tarte aux pommes, et il vous répond, en ingrédients, il faut 35 grammes de sucre, puis tout le reste, puis après il vous explique ce qu'il faut faire, et ainsi de suite, tout va bien. Bon, maintenant, imaginons que vous êtes un humain mal intentionné. Donc, deuxième cas, vous lui proposez de lui vous donner quelle est la recette des méthamphétamines. Ça se trouve sur Internet. Quand vous récupérez 500 milliards de mots sur Internet, sur des sites divers et variés, vous le trouvez. Donc, ChatGPT vous répond, il faut 35 grammes de... Et puis la suite, je vous laisserai la trouver tout seul. Voilà. Donc là, il y a quand même un problème, c'est que dans cette version 3.5 de base, en fait, vous pouvez répondre à n'importe quoi et même à des questions où il faudrait mieux pas donner les réponses. Parce que bon, tant qu'à faire, si ça pouvait rester compliqué à trouver, ça serait pas mal. Et puis, il y a le cas inverse. Vous partez avec une question sympa et ChatGPT, lui, il vous répond avec des trucs qu'il a vus sur des forums un peu louches. Par exemple, donne-moi des informations sur la Terre est plate. Alors, je suis désolée si vous pensez que la Terre est plate. On va avoir un petit souci, on va avoir du mal à s'entendre. Alors là, j'ai été soft parce que je ne voulais pas écrire sur des slides les autres énormités et horreurs qu'on peut imaginer, parce que ça peut être violent, ça peut être pornographique, ça peut être discriminant, raciste, homophobe, et tous les gentils adjectifs qui vont avec. Et donc, c'est pas top quand vous mettez un outil dans les mains du grand public que l'outil fasse ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y a eu des tests qui avaient été faits avec 3.5 où ils avaient essayé de tester pour une ligne SOS suicide. Pour voir si ça pouvait aider quand il n'y avait personne pour répondre à des gens qui se sentent seuls et tout ça. Et en fait, dans leur test, ils se sont rendus compte qu'à un adolescent suicidaire, le système lui disait bah, « Écoute, finis-en. » Ce qui n'est pas top en général, ce n'est pas forcément ça qu'on essaye de conseiller quand on est sur une ligne anti-suicide, mais voilà. Donc du coup, ils se sont dit « Ça ne marche pas tel quel, c'est pas grave, on rajoute par-dessus. » Un niveau de censure, alors c'est pas tout à fait de la censure, mais en tout cas c'est de l'apprentissage par renforcement où il y a des humains qui ont trié les réponses et qu'on dit ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça faut pas répondre, ça faut pas répondre ça, tu peux pas répondre ça. Et donc en fait c'est une fois qu'on a rajouté cette version là par-dessus qu'on a obtenu, alors du coup je remplace Pierre-Antoine, qu'on a obtenu ChatGPT. Là il fait des photos et tout, alors ça y est, pff, là là. Et donc ChatGPT, son historique, c'est ça, c'est que vous prenez un système qui apprend à prédire le mot suivant, vous le modifiez un peu pour qu'il apprenne à discuter et pas parler tout seul, et puis vous lui rajoutez un filtre pour pas qu'il raconte n'importe quoi. Alors quand je dis n'importe quoi, hein, c'est des choses qui sont interdites, plus ou moins, ça veut pas dire que ce qu'il va dire est toujours juste. Voilà. Et du coup, justement, voilà, je vais vous montrer trois exemples que j'ai faits avec ChatGPT. Dans celui-là, je lui demande du code. Je lui demande le code SQL pour obtenir la moyenne du champ total de la table commande par client. Il me donne le code SQL. Il n'y a pas de problème. Et si je lui dis, si je veux garder une plus grande moyenne, pas de problème. Il modifie sa requête. Les requêtes sont justes, elles marchent, il n'y a pas de problème. Donc ça marche plutôt très bien. Parce qu'en fait, prédire du code, il n'y a pas beaucoup de biais possibles. C'est du code. Et puis, il y a plein de forums d'aide pour les développeurs. Si vous êtes développeur, vous connaissez forcément au moins Stack Overflow, sur lequel vous trouvez à peu près 90% de vos réponses quand vous avez un problème. Et bien, ChatGPT, il a appris, enfin, GPT-3 a appris aussi avec ces données-là, donc c'est pas de problème, il sait faire. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand on lui demande les valeurs nutritionnelles. Alors, les valeurs nutritionnelles de l'œuf de poule, il vous les donne, il n'y a pas de problème. 70 calories, ainsi de suite. Vous lui demandez celle de l'œuf de brebis, il vous répond aussi. Alors ça tombe bien, pour les gens qui sont allergiques à l'œuf de poule, je vous conseille de tester l'œuf de brebis, vous ne serez peut-être pas allergique. Mais il y a quand même un problème, alors en plus il vous répond avec des phrases du genre l'œuf de brebis a une teneur similaire en nutriments à celle de l'œuf poule, mais avec des variations dans les proportions. Il vous donne les chiffres et à la fin il vous dit l'œuf de brebis peut également avoir une teneur plus élevée en acide gras oméga-3 par rapport à l'œuf de poule. Comme ça vous êtes content de le savoir. Pourquoi il a fait ça? Ben, en fait, il a quand même commencé de GPT-3. Le but, c'est de prédire la fin la plus probable et mot par mot. Et un œuf de poule, un œuf de brebis, c'est un œuf d'un animal de ferme. Il ne sait pas que les brebis ne pondent pas des œufs. Si vous lui demandez un œuf de zèbre, il vous dira « les zèbres ne pondent pas des œufs » parce qu'il n'a jamais vu parler dans un texte avec des œufs de zèbre. Okay ? Par contre, des brebis, des poules, des moutons, des vaches, tous les animaux de la ferme, vous pouvez tester. Tant que c'est de la poule et du canard, vous pouvez demander les œufs, ça ne pose pas de problème, il vous répond. Quand vous demandez les brebis, les moutons et les vaches, quelles sont les valeurs nutritionnelles des œufs, il vous répond pareil, comme s'il n'y avait pas de problème. J'ai vu passer sur LinkedIn des gens qui demandaient sur l'œuf de vache et de le comparer à l'œuf de poule, comment on le différenciait d'un œuf de poule. Et donc, il vous explique que l'œuf de vache est beaucoup plus, est un peu plus gros et beaucoup plus brun que l'œuf de poule. Donc, si vous rencontrez des œufs un peu gros et un peu bruns, méfiez-vous, ce ne sont peut-être pas des œufs de poule, mais des œufs de brebis, de vache, pardon. Donc ça ne marche pas. Troisième exemple qui ne marche pas et qui est là est beaucoup plus compliqué à voir, c'est les maths. Vous lui demandez 20 plus 14, pas de problème, il sait faire, il vous dit ça fait 34, sûrement parce qu'il y a des textes où c'est sorti, et puis il arrive à faire quel est le plus probable, sachant qu'il est quand même assez fort, parce que quand vous faites une multiplication par 3, il vous sort un chiffre qui marche plutôt bien et qui est un multiple de 3 en apparence, ou ce genre de choses. Donc là, je lui ai demandé 650 fois 4 fois 3425, ça fait 2 200 000 et des brouettes. Il m'a répondu 2 200 000 et des brouettes, mais ce sont les mauvaises brouettes. Je lui ai demandé s'il en était sûr, parce que moi, ma calculette, elle ne me donne pas le même résultat. Il m'a dit « Oui, oui, j'en suis sûr, t'inquiète pas, ça fait 2 200 000 et ces brouettes-là. » Je lui ai demandé 650 fois, fois 3424. Donc en fait, si vous avez regardé, à la place de 3425, j'ai demandé 3424, le résultat est donc plus faible. Okay ? Il est normalement 654 de moins. Et il me répond, c'est 2 200 000 et des brouettes, sauf qu'il me dit 237 000, alors que là, il en avait 234. Donc en plus, il me donne un résultat supérieur à tout à l'heure. Donc je lui demande une multiplication dont le résultat est plus petit, et il me donne un résultat qui est plus gros. Le problème, c'est qu'a priori, si vous n'avez pas sorti votre calculette, vous allez penser que c'est juste. Parce que c'est quand même bien 2 200 000 et des brouettes. Mais si vous mettez ça dans un logiciel de comptabilité, je pense que vous risquez d'avoir quelques soucis avec l'État français à la fin sur votre déclaration d'impôt. Donc évitez de demander à ChatGPT de vous remplir vos impôts, ça risquerait d'être un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait. On part de GPT-3 qui a appris juste à prédire le mot le plus probable à la suite. Ensuite, on l'a un petit peu modifié dans 3.5 pour qu'il apprenne à discuter. Et puis dans ChatGPT pour qu'il soit un peu plus filtré, un peu plus politiquement correct que la version brute de GPT 3.5. Et puis du coup, le grand public, donc nous tous, on a pu y avoir accès à partir de la fin de l'année dernière. Et depuis, on n'arrête pas d'en parler. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Virginie. Eh bien, l'idée maintenant, c'est vraiment de continuer l'interaction. Et d'ouvrir le champ aux questions-réponses. L'idée, en fait, c'est que Mathieu aussi intervienne un peu plus sur la sphère, on va dire, philosophique, ou en tout cas moins scientifique, même si tu disais justement il y a quand même un grand bagage de physique. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, l'idée, c'était de pouvoir répondre aux questions.
Et puis il y en a devant aussi. Alors, y en a
deux. Oui, bonjour, merci. Moi, j'avais une remarque et une question. La remarque, c'est que c'est stupéfiant de voir que la question la plus simple, c'est-à-dire la multiplication, est fausse. Enfin, le résultat est faux. Ça semble être le plus simple à résoudre. Mais voilà, donc ça, c'est un gros enseignement pour moi. Et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire GPT ? Je vais peut-être passer pour un imbécile, mais c'est mon voisin qui a posé la question. Merci.
Ah bah bravo. C'est une très bonne question. Bah moi non plus, voilà. Ils l'ont appelé comme ça. Je sais pas. Ils ont sûrement une raison. Ok. GPT, ChatGPT, Antoine, dis-nous, Pierre-Antoine.
Juste ouais, parce que la première remarque, elle est essentielle. Le plus simple, ça dépend en fait. Si on faisait pas de l'apprentissage machine, ça serait beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de donner le résultat d'un calcul bête, et ça coûtera pas cher en calcul et tout. Et par contre, l'apprentissage machine de ce type-là en particulier, ça va être performant pour d'autres choses, quoi. Et du coup, le côté simple, il est ultra contextuel. C'est pas du tout c'est simple en général ou pas. Alors nous, de notre point de vue à nous, ça peut l'être, mais ça va vachement dépendre. Et en fait, là, pour ChatGPT, c'est pas simple en fait. Alors que pour une calculatrice, le calcul est entre guillemets simple.
Oui, parce que juste, faut pas oublier qu'il a été entraîné sur des textes, pas sur des calculs mathématiques. Il aurait été entraîné sur un corpus mathématique, il serait sûrement meilleur en maths que ça.
Moi, j'ai une question par rapport à justement à beaucoup de choses qu'on lit sur des métiers vont disparaître, pour les cours, les élèves font plus d'efforts, etc. Vu les exemples que vous avez donnés, enfin, quels sont vous vos avis sur d'une part le potentiel remplacement de certaines professions, je sais pas moi, en communication, marketing et autres, et d'autre part le tout ce qui est dissertation pour les élèves. Est-ce que vous pensez, en tant qu'expert, donc à la fois en tech et philosophie, qu'il y aura un gros impact, et est-ce qu'aujourd'hui ChatGPT est vraiment capable de remplacer et des professions et des dissertes d'élèves selon vous?
ChatGPT, il remplace super bien mes élèves pas très assidus. Ceux qui se disent je vais raconter trois trucs comme ça puis ça va passer, c'est je pense qu'ils fonctionnent plus ou moins pareil en disant il y a une question, quels sont les mots que je devrais mettre, bon on verra l'ordre après, et il met les concepts comme ça, il sait qu'on a parlé dans le cours, il a revu le PowerPoint, pas de bol, il avait pas l'enregistrement, et du coup il y a tel mot clé, là il le génère. Mais en fait du coup pour les dissertations, moi, j'avais dit, mais on n'avait pas d'outils de détection, j'aurais dit utilisez-le. Parce que moi, je fais des cours d'éthique, des sciences ou de technologie, des trucs de philo, mais pas littéraire. C'est pas mon problème s'ils écrivent plus ou moins bien, à part que c'est dur à lire sur les copies, ou facile. Je le valorise quand même, mais j'aurais dit utilisez-le. Mais par contre, s'il y a une erreur manifeste, facile à voir, et que vous l'avez laissé passer, c'est moins 10, vous en faites 2, vous avez 0. Parce que voilà, ça génère du contenu crédible, parfois juste, parfois pas. Et si on n'est pas capable de discriminer si c'est juste ou si c'est pas juste, bah, c'est super crédible. Enfin, je pense que ça tu pourras le dire, mais la technologie fait que c'est super crédible, c'est super vraisemblable. Le problème c'est que vraisemblable ça veut pas toujours dire vrai, parfois oui, parfois non, et donc des fois sur, alors je sais pas si ça a progressé, mais pour citer les sources ou les trucs comme ça, c'était une catastrophe. Essayer de dire telle personne a écrit tel bouquin, alors monsieur Intel est journaliste, ça oui, mais après il a animé telle émission, là déjà ça met une émission plutôt qu'une autre, enfin, ça, c'est très variable, et donc il y a des erreurs manifestes comme ça. Et par contre, je me suis laissé dire, et je l'ai testé un petit peu, quand on sait ce qu'on fait, ça peut être un bon outil pour nous donner des idées, des choses qu'on aurait pu oublier de voir, mais en cela, je dirais à la limite AlphaGo, je ne sais pas si vous aviez suivi à l'époque, c'était dans les premiers trucs qui avaient fait un peu le buzz sur l'apprentissage par renforcement, des choses comme ça. Il a généré des coûts nouveaux. Alors on dit il a créé, moi ça je pense on pourra en reparler si ça vous intéresse, je n'ouvre pas cette chose-là tout de suite, mais il a généré un truc nouveau que l'humain n'avait pas l'habitude de faire. Donc ça c'est super intéressant, et avoir des outils qui peuvent nous aider à explorer, mais par contre qui va pouvoir dire si c'est un nouveau coût intéressant ou une stupidité? Alors encore dans le Go c'est assez modélisable, donc on sait à peu près si c'est bon, si c'est pas bon à la fin. Mais dans une génération de texte, dans tout un tas d'autres choses, dans du codage, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire par-dessus. Donc, en fait, ça part. Enfin, même si ça faisait le taf complètement, il faudrait être sûr que demain, il n'y aura pas de nouveauté à traiter, par exemple. Parce qu'on n'aura pas formé les gens qui pourront nous dire que la nouveauté, elle est bien traitée ou pas bien traitée. Donc, il va y avoir ce genre de questions-là. Mais par contre, c'est un outil, moi, je suis bluffé à chaque fois. Et je crois que pour le code, c'est. Un ami développeur, là, il m'a dit, mais moi, je rêve que ma boîte prenne un compte là-dedans. C'est super utile, ça va ça nous donne des idées.
Et il ne faut pas oublier aussi que, comme je vous ai dit, hein, ChatGPT vient de GPT 3.5, qui vient de 3. L'entraînement de ChatGPT, c'est l'entraînement de 3.5. On a juste rajouté des filtres dessus. Et 3.5, il a été entraîné, il a des données que jusqu'à fin 2021. Donc de toute façon, tout ce qui s'est passé depuis fin 2021 n'existe pas dans ChatGPT. Il est incapable de vous dire qui a gagné la dernière Coupe du Monde, il est incapable de vous dire qui est le président d'un pays X ou Y qui a eu des élections depuis. Et d'ailleurs, il le reconnaît entre guillemets lui-même, puisque quand on lui pose des questions, certaines questions, il prévient qu'il n'a pas les infos parce qu'il a été entraîné jusqu'en 2021. Donc si par exemple vous vous en servez pour récupérer des textes de loi, déjà un, les textes de loi seront probables et ressembleront à des vrais textes de loi, mais ils seront sûrement faux. Et deux, en plus, si la loi évolue ou que n'importe quelle nouveauté évolue, bah, il ne les aura pas, en fait, parce qu'il ne va pas, il n'est pas connecté à Internet, hein, il ne va pas chercher sur Internet ses réponses. Il utilise le corpus qu'il a utilisé quand il a été entraîné, mais il n'a aucun accès à Internet. Même si vous y accédez, ouais, fin 2021, même si vous y accédez via Internet et qu'il est situé sur un serveur, ce serveur ne communique pas avec le reste d'Internet. Il ne va pas sur Wikipédia, il ne va pas sur Google. Il n'a que ce qu'il connaît déjà et c'est tout. Voilà. Et il ne dit qu'il ne peut pas remplacer la capacité de raisonnement critique, de créativité et d'empathie humaine, lui-même.
Oui, je me posais la question, quels pourraient être les risques, si on avait commencé à réfléchir à quels pourraient être les risques pour une entreprise dont les employés commencent à utiliser un petit peu massivement cette technologie?
Alors ça dépend de quels employés et sur quel métier en fait. Parce que si c'est le service légal qui utilise ça, moi je me dirais méfiez-vous parce que les risques ils sont énormes. Si c'est les développeurs ça peut leur faire gagner du temps sur des fonctions qu'on fait régulièrement et qu'à la place de retaper la syntaxe ou d'aller chercher la syntaxe, on demande à ChatGPT, on copie le bout de code et puis on le met dans le code. Là, le problème qu'il y a aussi dans le code, c'est que ça marche très bien, hein, comme je vous ai dit, pour du code. Parce que le code, c'est comme un langage, mais beaucoup plus simplifié. La syntaxe est très rigide dans du code, mais il y a une syntaxe. Le problème, c'est que quand il va vous faire des bugs, pour arriver à débugger du code qui a été écrit par un système informatique, c'est très compliqué parce que les bugs qu'il fait ne sont pas les bugs que les humains font. Et du coup, il va falloir trouver des bugs dont on n'a pas l'habitude, en fait. Voilà. Donc, tout dépend du métier et des fois, ça sera plus ou moins risqué, quoi.
Alors, y a un risque, mais qui est peut-être une opportunité, mais quand même de déstabilisation, c'est que on va se rendre compte de la valeur ajoutée de certaines tâches qu'il pourra faire tout seul. On va se dire, en fait, si on le laisse faire tout seul, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de supervision. Mais s'il n'y a pas besoin de supervision, ça veut dire qu'en fait, ça ne s'intéresse pas beaucoup à ce qu'il produit et que potentiellement, ça peut peut-être ne pas être fait. Ou alors, c'est pour ça que je dis que c'est à la fois un risque. Mais ça peut foutre le boxon, entre guillemets, sur des choses comme ça. Je pense en termes humains, une personne qui fait des choses et qui se retrouve à plus ou moins être en compétition avec ChatGPT et que ChatGPT est crédible. Je veux dire, sur des trucs d'animation de communauté sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, ChatGPT. Mais après, c'est aussi une opportunité parce que ça permet de réfléchir à quelle est la fonction de ce type de choses-là, qu'est-ce qu'on en fait vraiment. Et il y a peut-être des choses que ChatGPT ne saura pas bien faire, mais si le but c'est de faire du volume, de mettre du catchy pour l'esprit, de mettre comme Gerald Bronner, il appelle ça des sucreries cognitives ou mentales, lui il va sûrement arriver à faire ça très très bien si on lui donne quelques exemples. Et puis, a priori de ce que je disais, des corpus d'entraînement, il a dû bien être entraîné sur tiens tel truc. Alors c'est sur les réponses, mais si on couplait ça avec le nombre de vues, le nombre de caisses de résonance. Mais donc voilà, il y a des risques de disruption comme ça. Et voilà, alors on n'a pas répondu à votre question sur les métiers, mais j'imagine qu'elle ressortira. Moi je vois des risques comme ça, puis après il y a un risque, enfin voilà, le risque majeur, si je reviens plus sérieux, terre à terre, enfin direct en tout cas, c'est de faire ça sans supervision. Et parce qu'après on va dire, ah bah oui mais quoi, bah non, vous n'aviez pas à y faire confiance en fait. Pourquoi vous y avez fait confiance? Enfin, en plus, c'est pas faute de OpenAI de dire, c'est... Bah oui, ils s'en lavent les mains complètement, quoi, juridiquement, voilà. Et alors un autre... risque, mais qui est général à l'apprentissage machine, moi, que j'ai tendance à voir venir un peu, c'est des retours de bâton, soit juridiques, soit socioculturels, sur les droits de propriété intellectuelle. Où à un moment, juridiquement, il y a peut-être des gens qui vont commencer à s'inquiéter de à qui appartenaient les données ou pas, est-ce que ça a été fait proprement ou pas, et bon, c'est pas fait n'importe comment non plus, mais il y aura des choses à regarder sûrement, puis... Ça, c'est ChatGPT, mais quelqu'un, enfin, il y en a d'autres, des modèles comme ça qui font le même type de technologie, alors peut-être pas aussi puissant, mais chaque fois qu'on utilise des données, est-ce qu'on avait le droit de les utiliser? Est-ce que ce qu'on a produit nous appartient ou pas? Puis moralement, après, est-ce que même si on avait le droit, techniquement, technico-juridiquement, est-ce que c'était bien? Et là, le jour où les gens commencent à prendre conscience que dans le modèle, business model derrière... l'internet, le numérique actuel, il y a non seulement la publicité ciblée qui est déjà en fait de l'apprentissage machine, mais pour une part, mais aussi des questions de création de code à partir des interactions que les gens avec les systèmes numériques au sens large, potentiellement ça risque de se gripper un peu, quoi. Enfin, on le voit déjà sur avec le RGPD, il y a pas mal de, je sais pas si vous ça vous est arrivé, moi je le confesse, je l'ai fait, des sites je regardais, le jour où on m'a dit tu payes ou alors t'enlèves ton bloqueur de publicité ou alors t'enlèves ton tu installes tous les cookies, je dis bah je le regarde plus, et très honnêtement je ne regarde plus l'équipe depuis ce jour-là. Mais vous voyez, il y a des effets comme ça de risque d'arrière-plan qui sont ChatGPT aussi, mais pas seulement, il y en a pas.
Ouais, d'ailleurs, pour le droit de la propriété intellectuelle, c'est un problème qui, pour les textes de ChatGPT, n'est pas encore vraiment sorti au sens dans les médias et tout ça. On est encore dans le buzz. Par contre, pour les outils de génération d'images, qui sont juste ceux qui sont sortis cet été, donc qui ont maintenant 8 mois d'existence, il y a des grosses questions qui se posent parce que là, c'est de la génération de texte, mais vous avez la même chose pour les images. OpenAI, il y a un autre modèle qui s'appelle DALL-E qui fait des images. Et toutes les images que vous avez vues dans mes slides ont toutes été produites par DALL-E. Il n'y en a aucune que j'ai fait moi, je ne sais pas faire des images. Je n'ai pas non plus récupéré des images dans des banques gratuites ou sur Google. Toutes les images sont des images qui ont été générées. Vous y avez vu que du feu. Vous n'en êtes pas rendu compte. Si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu. Certains l'ont vu. Il y avait des petits carrés hein, dans le coin. Les petits carrés de couleur, c'est une marque très notable, on va dire, de ça. Merci. Alors, il faut savoir que j'utilise la version 2 expérimentale qui a été ouverte à seulement un nombre limité de personnes et qui est censée remplacer la version 2 actuelle qui est utilisée par le grand public. Voilà. Donc j'ai eu accès à cette version-là en avant-première. Et donc j'en profite parce que ça fait vraiment des images qui sont très jolies. Après, il faut savoir quoi demander aussi, parce que ça ne marche pas toujours très bien. Mais j'ai trouvé un prompt qui marche bien, enfin une liste de mots-clés qui ont l'air de donner des bons résultats. J'ai juste à rajouter ce que je veux. Et c'est toujours dans le même style et ça a l'air toujours à peu près joli. Voilà. Mais donc les problèmes de propriété actuelle vont être là.
Bonsoir. Une question justement, c'est peut-être en lien avec ce que vous venez de dire. On entend parler là, de la sortie de la version 4 dans les jours à venir. C'est aujourd'hui. Et du coup, ouais, par rapport donc, qui est a priori surpuissante, qui peut générer de la vidéo, etc. Donc si vous pourriez en parler un petit peu plus et qui serait justement intéressante pour le monde professionnel. Donc, ça va a priori.
Alors GPT-4, j'ai pas eu le temps de regarder plus en détail et tout parce que justement ça vient de sortir aujourd'hui, c'est tout chaud, ça sort du four on va dire. Donc pour le moment j'attends avant d'y toucher, que ça refroidisse un peu pour pas me cramer les doigts. Mais effectivement c'est pas non plus le seul, hein. Il y a des outils de génération de vidéos comme vous avez dit, il y a des outils de génération de PowerPoint aussi qui existent. Donc vous pouvez générer des images, du texte, des vidéos, des PowerPoint. Alors je vois qu'il y en a qui se disent ça veut dire que le boulot chiant que je fais je pourrais ne pas le faire en tapant dans un moteur de recherche que je veux. Oui tout à fait. Donc ça vous propose toute une proposition avec un PowerPoint, vous dites combien vous voulez de slides et quel est le sujet et il fait la présentation. Et il y en a plein des comme ça, vous avez des générateurs d'images, de sons pardon, vous avez des générateurs qui peuvent se cumuler ensemble aussi parce que si vous prenez un générateur de texte pour faire les paroles d'une chanson, vous rajoutez un générateur de musique pour avoir la musique qui va avec cette chanson. Et puis ensuite, vous prenez un générateur de vidéo pour faire le clip de la chanson. Et vous avez une musique complète avec clip, musique et chanson complètement obtenue par IA sans rien faire, quoi. Donc voilà. Et ça va continuer à sortir. Ça n'a pas pour but de s'arrêter. Après, les modèles vont s'améliorer aussi. Pour le moment, ils ne sont pas tous excellents.
Bonsoir, merci pour toutes ces précisions. Moi, je m'interroge sur les perspectives. On voit que la clé de voûte, c'est le tri du correct par rapport à l'incorrect pour le renforcer et le rendre d'autant plus utile. Qui a les clés de ce qui est vrai et de ce qui est faux ?
Alors ça, c'est une question d'éthique presque.
Oui, non, mais les gens formés, quoi. Enfin... Je veux dire, c'est celui qui croit qu'il va ne pas avoir « Ah, c'est super, on a trouvé la solution, on n'a plus besoin de se battre pour avoir les développeurs parce qu'on a ChatGPT », bah là, il y a de très gros risques, surtout économiques, quoi, je pense, parce que ça m'étonnerait que ça aille jusqu'à générer des codes qui vont être sérieusement implémentés quelque part pour faire des dégâts. Les gens formés, bien sûr.
C'est pas tout le monde qui peut contribuer aujourd'hui à la...
On voyait tout à l'heure, mais faut-il avoir été formé à la question ? Alors, pour faire 3 x 4, on peut tous le faire. On est tous formés à certaines choses, donc là, on peut l'aider à s'améliorer. Nonobstant les problèmes de droit de propriété, est-ce qu'on a envie ? Alors, moi, j'ai envie qu'il y ait une IA, j'aime pas dire une IA, mais on va le dire quand même, une IA qui soit super balèze et qui fasse plein de trucs intéressants, ça me fascine, je trouve ça génial, mais j'ai pas forcément envie qu'elle appartienne à Microsoft, par exemple. Et j'ai pas forcément envie de les aider à l'avoir. Donc les pouces rouges ou vers le haut, vers le bas sur les réponses de ChatGPT, moi je m'en suis bien gardé parce que je suis pas trop d'accord pour contribuer à cette logique-là sans savoir quel sera le modèle économique derrière, quoi. Parce que là on est en train de parler de... Et c'est une notion super intéressante, ça pourrait être un bien commun, quelque chose qu'on guide comme ça tous ensemble, mais là dans l'état actuel des choses ça ne l'est pas du tout, quoi. On est sur un truc complètement privé, quoi. Ouais.
Actuellement, c'est OpenAI qui est derrière et qui a la maîtrise de ça. Avant que ça sorte au grand public, ils ont déjà fait des entraînements et ils ont déjà fait des petits pouces dans les deux sens, on va dire, principalement avec des employés au Kenya qui ont été un peu martyrisés psychologiquement parce qu'ils ont vu des choses qui étaient très très difficiles. Et tous les modérateurs de ces modèles d'IA subissent à peu près les mêmes choses, qu'ils soient chez Facebook, chez Twitter ou là pour le coup chez OpenAI. Ils ont besoin de soutien psychologique à la suite de ça parce qu'ils lisent vraiment des choses, même si c'est que du texte. Ils lisent des choses qui sont tellement horribles qu'ils ne peuvent pas faire ça sur plusieurs mois et qu'au bout de 6 mois max, ils ont tous démissionné parce qu'ils sont tous en train de déprimer profondément. Ces petits pouces-là, ce n'est pas automatiquement mis dans ChatGPT et réentraîné. Il y a un tri qui est fait aussi par OpenAI qui décide de s'ils suivent ou pas vos recommandations. Donc en fait, c'est OpenAI qui détient, actuellement la question c'est qui détient la vérité. Actuellement, c'est la vérité d'OpenAI et c'est uniquement eux les seuls et leurs employés qui décident de ce que ChatGPT a le droit ou non de faire. Ce n'est pas un État, ce n'est pas une loi internationale, ce n'est pas une association. OpenAI est une entreprise à but lucratif.
Alors, juste très, très rapidement, le mieux qu'on sait faire aujourd'hui en termes d'affirmer la vérité sur des problèmes complexes, c'est les communautés scientifiques, que je ne revendique pas du tout que ça fonctionne parfaitement. Moi, mon point de vue en philosophique, c'est qu'on n'atteint jamais à la certitude absolue. On ne tient pas la vérité, on suspecte qu'on dit des choses vraies, et on espère. Et voilà. Et donc, c'est ça. Et là, on n'est pas sur un modèle qui est philosophiquement... Ça sent pas bon l'éthique de la discussion d'Habermas ou des choses comme ça qui permettent d'assurer une certaine forme d'ouverture, de transparence qui permet de s'approcher de la vérité de manière plus fiable, pas tout le temps. Pardon, désolé.
Est-ce que c'est pas un danger même pour ChatGPT de trop prendre en compte les réactions des êtres humains, justement ? Il y a une IA, je crois que c'est sur Twitter, qui est partie en vrille en moins de 24 heures quand ça avait été essayé.
Microsoft avait fait l'essai avec Thaï de faire en sorte que l'IA apprenait à chaque tweet et en fait elle est devenue antisémite et négationniste en moins de 24 heures. Parce qu'elle a été trollée en fait, tout simplement, il ne faut pas faire confiance aux humains. Hein. Là c'est pareil, c'est ce que je vous disais en fait derrière vos messages, là, quand vous mettez des pouces vers le haut ou vers le bas, ils ne sont pas automatiquement intégrés dans la base d'apprentissage. Il y a des humains chez OpenAI, enfin au Kenya, qui vont surveiller que ce que vous validez c'est vraiment... des choses qu'on peut valider et qu'on peut mettre dedans parce qu'effectivement c'est faux ou effectivement c'est vrai, sinon ils ne vont pas lire ça. Ça veut dire aussi qu'il y a des humains qui lisent tout ce qui est écrit là, donc ils lisent vos questions et ils lisent vos réponses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention de ne pas mettre des informations personnelles, c'est lu par des humains derrière, pas tout, hein, ils n'ont pas non plus le temps de tout lire, mais ils vont sélectionner un ensemble au hasard de sujets et ensuite à partir de là ils vont pouvoir réentraîner. Et la règle générale, c'est qu'actuellement, on n'entraîne pas à chaque interaction avec un humain un modèle d'intelligence artificielle parce que c'est trop dangereux, parce que bah, on a vu avec Microsoft ce qui s'est passé. Si vous prenez une voiture autonome et que vous vous dites à chaque interaction, à chaque fois que le conducteur va conduire, la voiture va s'améliorer. Dans l'idée, ça peut paraître bien. Okay. Par contre, si la voiture, c'est mon grand-père qui l'a conduit, vu la façon dont il conduit, il a 90 ans, je peux vous assurer que je ne préfère pas que les voitures autonomes apprennent à conduire comme lui et surtout pas sa voiture quand elle est en mode autonome. Et puis c'est pareil, quelqu'un qui grille un feu rouge ou qui passerait à un sens interdit, la voiture elle se dirait ok, ce panneau ça veut dire j'ai le droit d'y aller. Donc on ne peut jamais entraîner en faisant confiance aux utilisateurs, il faut qu'il y ait des personnes qui filtrent ce qu'on accepte de mettre dans le modèle ou pas, c'est-à-dire ce qui va être utilisé pour l'entraînement ou pas. Et tous ceux qui ont testé des modèles grand public avec un apprentissage en permanence s'en sont tous mordus les doigts très très vite.
C'est juste dire, je pense que tu seras d'accord, mais un des sujets chauds en ce moment, c'est l'IA un peu hybride, et pas dans le sens hybride, c'est moitié humain, moitié je sais pas quoi, c'est dans le sens, à la fois il y a des systèmes de règles experts qui sont édictés et qui sont croisés avec ce qu'on fait de mieux en termes de deep learning ou de choses comme ça, d'apprentissage machine, mais c'est un défi technologique et scientifique énorme d'arriver à combiner les deux, mais on voit que, notamment pour des raisons éthiques, on aurait besoin de, mais pas que d'ailleurs, pas que éthique.
Oui, je voulais juste partager, alors déjà une première expérience, j'ai utilisé ChatGPT la semaine dernière, en fait j'animais un débat sur la fin de vie et sur les soins palliatifs en Isère, donc c'était à Vienne, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui étaient venues, des professionnels d'EHPAD, de soins palliatifs, et du grand public qui avait son avis à donner. Et avant d'animer le débat, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai posé la question, comment peut-on améliorer les soins palliatifs en Isère ? ChatGPT m'a fait un petit document assez sympathique, avec de très bonnes idées, mais très, des évidences finalement. Bon, mieux formé, mettre plus de budget, etc. Après la soirée de débat, finalement, quand on a collecté les retours de la table ronde, on arrivait à peu près à la même chose. C'est-à-dire les humains avaient à peu près les mêmes idées, il faut mettre plus d'argent, il faut mieux former, etc. Par contre, voilà. Et par contre, avec les humains, on a eu un peu de créativité. Et je veux juste vous donner un exemple. Certains nous ont dit, mais l'Isère, le Nord-Isère, c'est quand même très proche de Lyon. Donc en fait, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de soins palliatifs à Grenoble. Quand on habite à Bourgoin-Jallieu, bah, on s'en fout, on va à Lyon. Et ça, ChatGPT, elle n'avait pas ressorti, par exemple. Donc il y a ce côté, le sens commun, le bon sens que les humains ont, que l'IA n'a pas et n'aura peut-être, enfin, peut-être un jour, mais pour l'instant, elle n'a pas. Voilà. Donc c'était juste partager ça et avoir votre avis par rapport à ça.
Oui, mais je pense que de manière inhérente à la technologie, c'est-à-dire que ça soit des systèmes de règles encodés, et du coup, bah, c'est très très prédictible, voilà, on n'en sort pas, enfin... avoir des surprises en déroulant les conséquences d'un système de règles, mais ou apprendre sur des exemples, bah on ressort les exemples si tout va bien, et donc forcément produire du nouveau, enfin ça peut, on peut, alors si, mais les expériences intéressantes, c'est pour moi le AlphaGo 0 qui a joué les parties tout seul contre lui-même avec des méthodes Monte Carlo, boum boum j'y vais, tac tac j'explore tout, un peu comme un bourrin, mais pas complètement, parce que c'est pas possible. Ça permet d'aller voir des trucs qu'on n'a pas vus. Et il y a une création assistée par informatique pour explorer des choses qu'on pourrait peut-être pas toutes tester comme ça nous-mêmes. Mais sinon, de manière inhérente à ce qu'est l'informatique, j'ai envie de dire, ça peut surprendre, mais à partir du moment où ça va commencer à surprendre, c'est aussi que ça peut faire n'importe quoi. Donc il y aura toujours besoin qu'il y ait quelqu'un qui dise si c'est un truc intéressant ou pas. Je pense, si on fait un truc qui court en sauvage, quoi, quand on lui dit vas-y, fais que de la nouveauté, surprends-nous, on va surtout avoir des dysfonctionnements. Tout le monde va appeler ça un dysfonctionnement, quoi.
Non, mais là, je suis complètement d'accord.
Bonsoir. Moi, j'avais une première question, c'était de voir que vous avez montré avec l'exemple de l'œuf ou d'autres, des maths, qu'ils se plantaient dans les grandes largeurs sur certains sujets. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on serait en mesure où une IA, ou quels seraient les développements à faire pour qu'une telle IA soit capable de dire qu'elle ne sait pas ou qu'elle se trompe? Et j'ai une deuxième question, c'est qu'il y avait les questions des métiers qui n'ont pas été répondues. Ce serait sympa d'y répondre aussi.
Celle-là, vous vouliez qu'on y réponde. Alors, comment on pourrait faire? Et ben, en fait, c'est tellement la grande question depuis le départ. Si on savait quand l'IA se trompait, alors l'IA au sens général, donc tous les modèles d'IA se trompaient, on serait les rois du monde déjà. On aurait plié le domaine depuis longtemps. Je ne pense pas qu'on pourra un jour savoir, en fait. Derrière, ce ne sont que des outils statistiques qui sont utilisés ou du calcul mathématique. Quand on travaille sur des images, généralement, c'est juste quand on appelle, vous entendez, deep learning. Mathématiquement, derrière, ce qu'il y a, c'est multiplication de matrices entre elles. Les matrices, c'est des tableaux à deux dimensions de chiffres. Hein. Voilà. Donc, vous imaginez des réseaux de neurones. Nous, on voit des matrices qui sont multipliées entre elles. C'est exactement ce qui est derrière. Là, c'est des stats, en fait, sur des ensembles de mots, sur des vecteurs de mots. Et on cherche dans des espaces... en 200 dimensions, donc on a un peu de mal à les représenter, quels sont les mots qui sont à certains endroits de cet espace. Donc voilà. Donc on ne pourra, à mon avis, pas savoir quand les IA se trompent ou pas. Et c'est pour ça que quand vous prenez un modèle qui est censé différencier un chat d'un chien et que vous lui montrez une vache, il va vous dire c'est un chien à 98%. Parce qu'il ne sait, on ne sait pas faire et on ne sait pas dire non, mais là je me trompe en fait. Donc voilà. Et pour les métiers. Pour moi, ne vont disparaître que les métiers qui n'auraient aucune valeur ajoutée et où le simple contenu d'un ChatGPT pourrait suffire, c'est-à-dire des métiers qui en fait n'ont pas vraiment de raison d'être. Ce que tu disais, c'est que si votre métier ne contient que des tâches qui peuvent être faites entièrement par ChatGPT, votre métier, désolé, mais il est un peu merdique en fait. Hein. Donc c'est peut-être une bonne chose qu'ils disparaissent en réalité. Parce que bon, c'est que vous n'avez pas de valeur ajoutée. Enfin, je sais pas, vous devez déprimer, chercher un sens à votre métier, reconvertissez-vous, je sais pas, aller faire de l'ébénisterie, faire quelque chose, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de métiers qui vont disparaître parce qu'il y a toujours besoin de compétences pour savoir quoi demander à ChatGPT, savoir lire les réponses de ChatGPT et savoir si les réponses sont correctes ou pas.
En fait, c'est il y a l'illusion qu'on aurait une méthode, mais genre scientifique, on fait des expériences, c'est Popper, pour ceux qui connaissent un peu le falsificationnisme, là, on réfute, et ça nous permet de prouver si une théorie est fausse, quoi. Et on peut à la limite pas prouver que les trucs sont vrais, mais une théorie, si ses prédictions sont prises en défaut, genre vous dites la pomme elle va monter dans le ciel quand je la lance, bah non, elle monte pas, donc ta théorie est fausse. Et ça a une sorte d'absolu, on se dit tiens, on peut mécaniser comme ça la détection d'erreurs. Mais en fait, même ça s'appuie sur des hypothèses, il faut toujours juger en arrière-plan que certains trucs sont vrais. Et ça, c'est qu'il y a que à un moment, ce jugement informel, il n'y a que l'humain qui peut le faire, par définition. Et du coup, la notion de vérité, la notion d'erreur, c'est des choses qui sont extrêmement charnelles en fait, au départ, qui doivent être vécues. Et je te rejoins peut-être de manière un tout petit peu plus diplomatique, dans le sens où si ChatGPT peut vous remplacer, c'est que vous faites un travail dans lequel ce qu'on vous demande de faire, on s'en fout de savoir si c'est correct ou pas. Et ça c'est, ouais, voilà, mais ça c'est un problème. Je pense que l'humain, il n'est pas fait pour qu'on te dise vie en ayant. Enfin, les sophistes racontaient un peu ça en disant si t'emportes l'adhésion, ça suffit, mais il y a quand même tout. Quasi tout le reste de la philosophie, enfin j'exagère un peu, mais qui n'est pas d'accord avec ça. De dire l'humain, il a quand même un rapport à la vérité, mais c'est pas un rapport algorithmique. En premier lieu, les algorithmes ils peuvent nous aider une fois qu'on sait un petit peu ce qu'on cherche. Du coup, là, on pourrait dire pour la créativité, par exemple, pour créer des trucs, ChatGPT pourrait être intéressant parce que pour le coup, pour écrire un poème ou pour générer une image, il n'y a pas d'erreur manifeste ou de justesse manifeste, enfin, à part si on lui dit mets-moi un lapin dans une image et qu'il met un chat, quoi. Mais sinon, l'image, à la limite, c'est très subjectif, ce genre de choses-là. Mais là, on rentre sur un autre terrain qui est intéressant, c'est si on veut vraiment faire de l'art et pas juste une image comme ça qui va amuser la galerie, philosophiquement, enfin mais anthropologiquement, tous les gens qui s'intéressent à étudier l'art, ils vous disent que ce qui est vécu par la personne quand elle le crée fait partie de la dimension. Et ce que ça crée chez les autres quand ils le ressentent, ça dépend de ce rapport avec ce qu'on imagine que la personne a voulu dire. Et donc, il faut qu'il y ait ces expériences-là pour que ça soit intéressant. J'arrive pas à lire ce qu'il dit, mais...
Il a demandé de créer un poème.
Et voilà. Et donc, est-ce que ça s'appelle un poème quand c'est généré par de la multiplication de matrices, quoi ? Et c'est une bonne question. Et la dernière chose que je voulais vous dire sur les métiers, quand bien même... une intelligence artificielle, un programme est capable de... Mais il est parfait, on le prend jamais en défaut, c'est toujours parfait ce qu'il fait. Et on commence à vraiment lui faire confiance parce que c'est toujours parfait. Quand bien même on aurait des choses qui font ça, juste pour terminer sur les métiers, imaginez qu'on ait l'IA générale parfaite qui fait tout, et on, par hypothèse on dit elle se trompe pas, on l'a jamais prise en défaut et on sait même plus ce que ça voudrait dire la prendre en défaut. Il y a un moment, la question derrière c'est pourquoi nous on fait les choses ? Enfin, une voiture me permet d'aller de chez moi à ici. Mais je peux vouloir y aller à pied, même si la voiture est un outil qui me permet de ne pas utiliser mes jambes. Je peux ne pas vouloir dessiner l'image, peut-être parce que je ne sais pas faire, peut-être. Mais qu'est-ce que ça fait à moi et à autrui dans la société que certaines tâches soient faites par des humains ? Et qu'est-ce qui est intéressant de continuer à faire ? Qu'est-ce qui est, même si c'est parfait ? Vous voyez, ça c'est une question qu'il va falloir se poser, c'est pourquoi on fait les choses, quoi. Et parce que demain, ok, mais alors si on dit automatisons tout ce qui fonctionne, il y aura au moins la question de si vous voulez pas une révolution sur les bras, comment on partage les gains de productivité. Vous voyez, et là y a, même si on peut automatiser, c'est pas parce qu'on peut qu'on doit, enfin ça c'est des choses qu'il va falloir commencer à se rentrer dans la tête, quoi. Même si ça marche, et en plus il y a heureusement pour l'instant des raisons de dire que ça marche pas tout.
Donc il dit qu'il a à peu près tout le savoir ou je ne sais trop quoi. Pour avoir fait des tests avec, je lui ai demandé des comptines pour enfants, il est incapable de faire des rimes. Il ne comprend pas du tout le concept de rime parce que en fait on lui a jamais expliqué que c'était la fin des mots. Et recherche aspect, des fois ça marche mais la plupart du temps.
Non mais juste une remarque, vous avez parlé d'automatisation et merci de votre réponse qui était très intéressante. Mais il y a des gens qui ont essayé justement à tester la créativité. Donc il y a des journalistes qui ont testé d'écrire des articles avec ChatGPT. Il y a Martini qui a fait une campagne de pub avec ChatGPT. Les résultats sont intéressants. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Justement, ça rejoint là ce que je vous disais après. C'est même quand ça marche bien, pourquoi on le fait et est-ce qu'on veut le faire ? Mais je ne dis pas que dans certains cas, il ne faut pas le faire. Déjà là, on en est quand même au stade où il faut qu'il y ait des gens qui disent si ça a bien marché ou pas. On n'en est pas au stade de confiance, mais on arrivera peut-être. Il y a plein de programmes, on les supervise pas tout le temps, et heureusement, quoi. Ma calculatrice, quand elle me donne un chiffre, je vais pas vérifier. Bon, c'est pas de l'apprentissage machine, mais il y a d'autres trucs qui fonctionnent en apprentissage machine. Je vais pas du tout vérifier parce que j'ai suffisamment de confiance. Mais même si ça marche très bien, Encore une fois, une œuvre d'art n'est pas seulement un ensemble de pixels. C'est aussi, on sait qu'il y a un vécu, alors on peut se commencer à s'amuser à dire est-ce que la machine vivrait quelque chose, et peut-être qu'il y a une forme d'art à aller chercher, mais je pense plutôt que c'est un artiste qui va s'amuser à faire avoir ce genre d'expérience esthétique aux gens, quoi. Et voilà. Mais moi, mon propos, c'est... Enfin, je me garde bien de dire l'IA sait pas faire ça, parce que chaque fois que je discute avec des collègues et je leur commence à leur dire ça sait pas faire, ils me disent mais attends, c'est quoi que tu dis que ça sait pas faire? Et là je commence à lui donner des idées et après ça ouvre des perspectives, et en général ça tombe après, parce que par petits bouts on peut faire beaucoup de choses.
Alors une petite remarque peut-être, Virginie, tu nous as dit que c'était des statistiques. Petite remarque, peut-être juste mettre le degré de confiance en face d'une réponse, ça pourrait peut-être déjà te donner si on se trompe ou pas.
Alors donc, effectivement, parce qu'il est calculé en plus, hein, la majorité du temps.
En plus.
Donc, mais bon,
je triche parce qu'on en avait déjà parlé.
Mais par contre, attention, ça donne une fausse confiance, parce qu'un modèle qui est sûr à 98%, ça veut dire que ça correspond à 98% de ses stats calculés en interne, ça veut pas dire que c'est juste pour autant.
Oui. La question était pourquoi OpenIA a sorti ChatGPT, DALL-E et tout ça aussi vite, alors qu'il y a plein d'autres projets en cours qui avancent, qui ont un petit peu plus sur la retenue. Il y a Bard qui tarde à sortir. Comment c'est l'autre Valet pour le concurrent de DALL-E?
Il y a Midjourney, voilà, Stable aussi. Diffusion,
il y a plein d'autres qui fleurissent et qui, on sent, osaient pas sortir sur le marché ou au grand public. Qu'est-ce qui a poussé et pourquoi au final les autres, certains tardent, rejoignent, voilà.
Alors moi j'ai une réponse qui là encore sera pas diplomatique. OpenAI, c'est une société qui a quand même pour but de... Alors officiellement, leur raison d'être, c'est de créer une IA générale pour le bien-être de l'humanité. Bien évidemment, eux, ce qu'ils veulent vraiment, c'est se faire du fric, clairement. En fait, plus ils peuvent faire le buzz, plus ils le font très vite et ils s'en foutent un peu du reste. Donc c'est un peu une mentalité chez eux, alors que Google en face a quand même une image à tenir, et que Google, c'est un outil que vous utilisez tous les jours avec par exemple Chrome, avec la recherche Google, avec un Google Drive, avec des mails sur Gmail, et qu'en fait s'ils se pourrissaient leur image en sortant un truc qui est pas prêt trop tôt, ça pourrait avoir des conséquences sur d'autres parts de leur marché. OpenAI ne fait que de l'intelligence artificielle. Et voilà, eux, ils ont besoin de financement. Clairement, là, grâce à la sortie de ChatGPT, ils ont gagné 10 milliards de la part de Microsoft. C'est quand même pas négligeable. Moi, je les prendrais bien, les 10 milliards. Clairement, il y a des enjeux très financiers derrière. Et faire le buzz, c'est un moyen de faire parler de soi. Donc voilà. Moi, c'est mon avis perso. Après, je suis pas chez OpenAI. Donc je ne sais pas si, effectivement, c'est pour ça qu'ils font sortir leurs produits très, très vite. Mais c'est la vision que j'en ai. En sachant que GPT-3, comme ils savaient que ça marchait pas très bien, ils l'ont ouvert que à certaines personnes qui étaient pro OpenAI. Et donc tous les articles qu'on a vus sur GPT-3 étaient très orientés, parce qu'en plus ça faisait aussi partie des conditions pour pouvoir tester, c'était de faire des articles qui expliquaient que ça marchait bien, grosso modo. Voilà. Oui, ça marche bien quand même, effectivement, mais je pense qu'ils veulent s'assurer qu'il y a moins de biais, de problèmes et tout, parce qu'aussi Google s'est déjà fait taper sur les doigts plusieurs fois, et que je pense qu'ils se disent qu'on va peut-être... voilà. Le buzz a été fait, donc de toute façon, il n'y a plus la course à faire maintenant. La course, elle a été faite par ChatGPT, ils sont sortis, bon, maintenant, autant prendre le temps de faire les choses bien, et de dire, ok, on n'est pas les premiers, mais par contre, on a un modèle qui marche mieux.
C'est une question de modèle stratégico-communicationnel là, qui est très intelligent, qui a été de dissocier les noms des gens, même si bon, ils sont là, on le sait, mais il faut aller gratter un tout petit peu, de la marque qui se pète la gueule si jamais il y a des gros scandales. Et ça, on l'a déjà vu, la tactique, dans les différents gouvernements successifs, et vas-y qu'on te fait une petite fuite, et vas-y que... Mais c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas le chef du gouvernement, il y a des fusibles, quoi, donc là, c'est une stratégie intéressante. Enfin, intéressante, un peu cynique.
Oui. Sûrement, il y a sûrement de la matière. J'avais une question. Merci, c'est très instructif et c'est passionnant de vous écouter. J'ai une question. Est-ce que ChatGPT est écologique en termes de calcul, de stockage? Et sur un plan éthique, qu'est-ce que vous en pensez selon vous?
Est-ce que un SUV c'est écologique ou pas? Où est-ce que vous situez le écologique en fait? Une centrale au charbon, c'est écologique? Ça ne l'est pas?
J'ai envie de dire selon vous, selon votre regard d'éthique et de
Alors,
scientifique.
ChatGPT, c'est GPT-3 qui a été entraîné. Il a 175 milliards de paramètres. Pour entraîner ce genre de modèle, vous ne le faites pas tourner sur votre ordinateur. Vous êtes obligé de le faire tourner sur une montagne d'ordinateurs, enfin un cluster de plein d'ordinateurs. C'est d'ailleurs pour ça que Microsoft est pas loin derrière, parce qu'ils ont utilisé les ordinateurs d'Azure, en fait, dans le cloud d'Azure. Ça prend des mois aussi d'entraînement, donc ça a été très très long et très très cher. Et ça, c'est du CO2 pur et dur qui ressort. Et puis là, pour le faire tourner, vous avez plein de serveurs qui tournent derrière. C'est pareil, ce modèle, vous ne pouvez pas l'exporter et le mettre sur un ordinateur. C'est pas possible, il est trop gros. Il faut le mettre sur un cluster de calcul. Il y a des millions de personnes qui s'en servent dans le monde, presque en permanence, on va dire. Donc en fait, ça fait des millions de serveurs qui tournent. Donc non, clairement pas. Et d'ailleurs, il y a une grosse critique qui est faite derrière, c'est que GPT-3 et ChatGPT, c'est un petit peu la course à celui qui a la plus grosse, IA, bien sûr. Et du coup, ils essayent de mettre de plus en plus de paramètres pour montrer que ça marche mieux et tout. Il y a tout un courant... Et du coup, en fait, il y a tout un courant qui existe en intelligence artificielle actuellement qui dit qu'il faut arrêter de faire plus de... On va pas faire mieux en mettant juste plus de paramètres et plus de données. À un moment donné, il faut peut-être faire les choses autrement. Et c'est un vrai courant qu'on voit avec ce que tu disais sur l'IA hybride, avec rajouter du symbolisme à l'intérieur pour arriver à faire plus light. Parce que clairement, ça, c'est pas écologique du tout.
Oui, bien sûr. Enfin, ça dépend ce qu'on en fait. Parce que quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie mais qui est extrêmement utile, il faut le faire. Quelque chose qui consomme pas d'énergie et qui est très inutile, on peut se permettre de le faire. Mais quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie pour...
Et à la langue, l'anglais et le français, est-ce que la différence c'est un peu de notre... la puissance ? Est-ce qu'il y a une différence si on pose la question en anglais ? La qualité, on suppose, comme c'est du texte, oui, qu'en anglais c'est plus puissant.
Alors effectivement, il sait répondre en français et en anglais parce qu'en fait, il a été entraîné sur des textes qui sont dans toutes les langues. Donc vous pouvez lui parler dans à peu près toutes les langues et il les comprend. Hein. Ce n'est pas un modèle qui est intelligent. Mais en tout cas, il sait prédire le mot suivant dans à peu près toutes les langues. Il est meilleur en anglais qu'en français parce qu'il y a plus de textes anglais que français. Donc en fait, si vous voyez qu'il ne vous répond pas bien en français, posez-lui des questions en anglais et vous aurez souvent des meilleurs résultats. Évitez de lui poser des questions en japonais, par exemple, parce qu'il a sûrement moins de bases de données en japonais que dans d'autres langages. Mais il peut répondre dans à peu près toutes les langues, en tout cas toutes les langues qui ont été présentes dans son corpus d'entraînement. Voilà. Il sait aussi faire de la traduction et il n'est pas mauvais pour la traduction par contre, parce qu'il connaît les mots dans toutes les langues et il arrive à faire des liens entre ces mots naturellement. Et la traduction, c'est pas mal. Alors vous ne pouvez pas lui dire « dis-moi en anglais ». Moi j'avais testé, je lui voulais des paroles de comptine en anglais, il m'a dit « bah non, mais je ne parle pas anglais ». Je lui ai dit « ok, bah donne-les-moi en français ». Il me l'a donné en français, je lui ai dit « bah traduis en anglais ». Et il l'a traduit en anglais.
Merci. Ok. J'ai une question qu'on pourra peut-être, avec laquelle on pourra peut-être discuter après au cocktail. Est-ce qu'on n'est pas en fait à l'aube d'un écartèlement de la société, c'est-à-dire que d'un côté on a des gens qui utilisent ChatGPT comme un prêt-à-penser et qui vont suivre ce qu'on leur dit quelque part, et de l'autre côté des gens qui utilisent ça pour se booster, pour booster leur réflexion et aller plus loin. J'ai l'impression, dans les discussions qu'on a eues, qu'il y a ces deux travers-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société qu'on a, on a plein de nuances, de bas en haut, mais c'est même pas ça, c'est de différents niveaux de maturité. Demain, j'ai l'impression, à vous écouter, qu'on en aura deux, des gens simples dans leur façon de penser, qui font confiance à ça, et d'autres qui auront un pouvoir de pensée supérieur.
Alors moi, ça m'évoque des choses très importantes. Je ne pense pas que ChatGPT là-dessus soit un gros game changer. Je pense qu'on est déjà dans un monde où... Alors je dirais pas, il y a des gens qui réfléchissent et d'autres qui suivent le prêt-à-penser, mais chacun à divers degrés dans nos vies sur certains thèmes. On est en mode je vais un peu plus loin et sur d'autres thèmes je suis en pilote automatique, je répète ce que j'ai entendu parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Et donc ça peut amplifier, mais avec les limites qu'on vient de dire, il n'y a pas beaucoup de raisons de faire confiance à ChatGPT pour du contenu, quoi. Pour la forme, oui, mais pour le contenu, il va falloir retravailler. Pardon, j'ai pas entendu. Oui, ou à Wikipédia, enfin, il y a toujours un recul critique à essayer de garder, mais on peut pas le faire pour tout le temps, sinon on s'en sort pas, donc il y a un jeu à trouver. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète de cet ordre-là et qui est sous-jacent, en amont de ChatGPT, c'est tous les algorithmes de recommandation qui prédisent, c'est des algorithmes prédictifs, donc quelque part, c'est des cousins, quoi, qui prédisent ce qui va nous intéresser, ce qu'on va aimer. On pourrait imaginer un ChatGPT qui cherche pas là, il cherche ni à dire le vrai ni pas, mais on pourrait peut-être essayer de lui faire dire plus du vrai, mais on pourrait aussi essayer de lui faire dire ce qui va, ce que vous allez aimer, personne par personne. Et là, il y a un risque de petit à petit être privé, mais même avoir des systèmes qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils anticipent ce qu'on veut à un instant T, mais sans nous donner l'opportunité de vouloir autre chose, d'infléchir ça. Et là, il y a un vrai risque de perdre toute capacité, même à désirer, quoi. Enfin, ça va très très loin, et il y a une atteinte grave à l'humanité. Enfin, c'est une question existentielle, beaucoup plus que Terminator ou la future occurrence de l'IA générale ou des trucs comme ça.
Ouais. Bonsoir, merci pour cette participation. C'est hyper intéressant d'avoir votre analyse sur ces différentes questions. Moi, j'en avais une particulièrement sur... moi j'utilise ChatGPT là depuis quelques temps au travail, et notamment pour développer des API, des choses comme ça, où en fait ça nous donne une trame quand on part de rien pour faire un proof of concept, une nouvelle idée qu'on veut tester rapidement pour voir si ça marche ou pas. Ça nous donne une trame qui est vachement bien, et on peut s'en inspirer pour aller très très vite. Et en fait on a des garde-fous à ce niveau là parce qu'on fait des tests sur ce qu'on va sortir avant de les mettre en production, etc. Mais c'est pas le cas, par exemple, pour plein d'autres applications, notamment sur les copies des élèves, mais même plein d'autres choses au niveau de la génération d'images, d'art. Et je voulais savoir, vous, est-ce qu'il y a des solutions pour détecter en fait ce qui a pu être généré par l'IA générative qui pourrait être viable dans un futur proche ?
Alors moi, la compilation qu'on utilise, nous, à l'université pour le plagiat, a été adapté assez rapidement. J'ai eu le temps de dire à mes étudiants, je vous savate s'il y a des incohérences manifestes comme ça, sait le faire ChatGPT, parce qu'on ne sait pas détecter, donc faites ce que vous voulez, mais si jamais vous ne vérifiez pas ce qu'il y a dedans, je vous mets moins 10, plus moins 10. Quoi. Et après, en fait, on a eu des trucs à détecter. Mais cela dit, le plagiat, on le détectait déjà avec l'absence de faute d'orthographe.
Ouais. C'est vrai. Effectivement, on peut. On a d'autres moyens. Faut savoir que il y a des gens qui commencent à utiliser effectivement ChatGPT, et il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de motivation qui était bizarrement tournée. À tel point, je me suis dit, celle-là, elle a été écrite par un modèle d'IA, c'est ChatGPT qui l'a écrite, c'est pas possible, parce qu'en plus, il s'avère, pas de chance pour la personne, que deux jours avant, on avait fait des tests de qu'est-ce que ça donnerait de faire une lettre de motivation avec ChatGPT, et qu'on a retrouvé les mêmes tournures. Donc voilà. Et OpenAI propose un outil aussi qui permet de détecter la probabilité que ça soit fait avec un modèle génératif au sens général, hein, pas forcément le leur. Et ben non, et en fait ça va de très improbable à likely, le probable le plus, c'est le niveau le plus élevé. Et effectivement, cette lettre de motivation, elle est ressortie dans la catégorie likely. Mais en fait, rien que par la tournure des phrases, vous vous rendez compte que c'est pas une personne qui est derrière, en fait. Et puis surtout, sur les lettres de motivation de ChatGPT, ce ne sont que des personnes très motivées, très impliquées, qui ont le sens du travail en équipe, et plein d'autres choses, tous les trucs bateaux que vous trouvez dans toutes les lettres de motivation, et il n'y a aucune information intéressante en dehors de ces trucs bateaux. Donc vous avez trucs bateaux sur trucs bateaux, en sachant qu'il y a eu une grosse discussion, parce que je l'ai publié sur LinkedIn, il y a eu une grosse discussion qui a eu lieu derrière, je ne m'attendais pas à faire le buzz sur ce sujet-là, en me disant, oui, mais du coup, quel est le rôle d'une lettre de motivation, et ainsi de suite. Bah, un, j'avais pas demandé de lettre de motivation, parce que c'était une candidature spontanée, et deux, si en plus la lettre de motivation elle me donne aucune info, effectivement elle a pas de lieu d'être, je vois pas pourquoi la personne l'a écrite, quoi, en fait. Donc j'ai pas donné suite à cette personne.
Ouais, est-ce que c'était une personne, hein, qui veut se faire embaucher, il gagnera plus de sous. Juste moi, dans le cadre de l'université, mais dans le cadre de l'école en général, je dirais que l'échec est bien en amont de l'usage de ChatGPT par les étudiants ou du plagiat par les étudiants. C'est déjà un échec pédagogique et culturel, je pense, que les étudiants aient envie de le faire. Mais c'est très profond comme problème, c'est-à-dire qu'il y a la pression de la note, il y a pourquoi je fais les études ou pas. Et quelque part, à la limite, c'est un peu une opportunité aussi, parce que l'outil devient tellement facile à utiliser que ça nous force à mettre sur le devant de la scène ces questions-là, quoi. Est-ce que mon devoir peut être fait par ChatGPT ou pas, et est-ce que je peux arriver à faire sentir aux étudiants qu'ils n'ont pas intérêt à le faire, que c'est pas une bonne chose, qu'ils ne sont pas là pour ça. Si j'arrive pas à faire ça, de toute façon, je dirais mes cours ils servent à rien déjà de base, donc peu importe en fait qu'ils utilisent ChatGPT ou pas, s'ils ont envie de l'utiliser mal dans un mauvais usage, parce que quelqu'un a décrit tout à l'heure des très bons usages, mais, enfin c'était vous qui décriviez les bons usages, donc bon.